Chapitre 7 Le nouvel ordre de sacrificature. Après les paroles d'avertissement et d'encouragement contenues dans la parenthèse allant du chapitre 5, verset 11, à la fin du chapitre 6, l'apôtre reprend le grand sujet du chapitre 5. Dans ce chapitre, il avait placé devant nous la dignité de la sacrificature de Christ, en nous rappelant que Christ ressuscité est salué souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Au chapitre 7, il poursuit en exposant le caractère élevé de cet ordre de sacrificature en montrant sa supériorité sur la sacrificature aaronique. Il est important de distinguer l'ordre de la sacrificature de l'exercice des fonctions sacerdotales. Quand il est question de l'ordre ou du rang dans la sacrificature, Melchisédek est le type approprié de la sacrificature de Christ. Quand il est question de l'exercice de son office comme sacrificateur en faveur des chrétiens, Aaron est le type qui donne une très juste image de l'office de Christ. La sacrificature aaronique introduit le sacrifice, l'intercession et les ustensiles du sanctuaire, dont il n'est fait aucune mention en relation avec Melchisédek. Il nous est ainsi rappelé qu'une seule personne ne peut jamais, même typiquement, présenter toutes les gloires de Christ. Versets 1 à 10. Citation de l'Écriture. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Mais considérez combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme du butin, lui le patriarche. Et ceux d'entre les fils de Lévi qui reçoivent la sacrificature ont bien un commandement de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui ne tire pas généalogiquement son origine d'eux a dîmé Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Et ici, les hommes qui meurent reçoivent des dîmes. Mais là, celui de qui il est rendu témoignage qu'il vit, et pour ainsi dire, Lévi même, qui reçoit des dîmes, a été dîmé en Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla au-devant de lui. Fin de citation. Les versets 1 et 2 se réfèrent à l'épisode frappant de l'histoire d'Abraham au cours duquel, pour un bref moment, Melchisédek, quelqu'un de plus grand que lui, vint à la rencontre du patriarche. Cet homme est à dessein enveloppé de mystère, afin qu'étant à certains égards assimilé au Fils de Dieu, il puisse préfigurer d'une manière appropriée notre grand souverain sacrificateur, le Fils de Dieu. Le passage de Genèse 14, versets 17 à 24, dans lequel cette scène est décrite, est un type du millénium. Après la défaite des rois par lesquels le juste Lot avait été amené captif, Melchisédek sortit à la rencontre d'Abraham. Son nom et celui de son pays signifient qu'il était roi de justice et roi de paix. En outre, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, le Dieu qui, par la défaite des rois, avait montré qu'il pouvait délivrer les siens de leurs ennemis et renverser toute puissance rivale. Quant à sa position, Melchisédek était un roi. Son règne était caractérisé par la justice et la paix. Et dans l'exercice de sa sacrificature, il se tenait entre Abraham et Dieu. En tant que représentant de Dieu devant l'homme, il bénit Abraham de la part de Dieu. Comme représentant de l'homme devant Dieu, il bénit le Dieu Très-Haut de la part d'Abraham. Il apporte la bénédiction de Dieu à l'homme et fait monter la louange de l'homme à Dieu. Ainsi, dans les jours millénaires à venir, Dieu sera connu comme le Dieu Très-Haut qui délivrera son peuple terrestre et agira en jugement envers toute puissance hostile. Alors Christ paraîtra véritablement dans sa gloire de roi et sacrificateur, comme cela nous est formellement annoncé par les prophètes. Il portera la gloire, et il s'assiera et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône, et le conseil de paix sera entre eux deux. Zacharie 6, verset 13. Il sera le vrai roi de justice, roi de paix et sacrificateur du Dieu Très-Haut. En outre, Melchisédek est à dessein enveloppé de mystère en ce que rien ne nous est dit de son origine, de sa naissance ou de sa mort. Pour ce que nous en savons, il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Il paraît sur la scène sans aucun détail quant à son ascendance et la quitte sans que rien soit ajouté. Pour ce qui est rapporté de lui, il demeure sacrificateur à perpétuité, en contraste frappant avec Aaron. En tout cela, il est assimilé au Fils de Dieu et, par conséquent, il présente de manière appropriée la dignité de la sacrificature du Fils de Dieu qui demeure sacrificateur à perpétuité. Nous sommes invités ensuite à considérer d'autres incidents dans ce récit qui montrent la supériorité de la sacrificature de Melchisédek sur celle d'Aaron. D'abord, ce roi sacrificateur est si grand en dignité que même le patriarche Abraham lui donna la dîme du butin. Pourtant, les fils de Lévi, qui, dans l'exercice de leur sacrificature, dîment le peuple, descendent d'Abraham. Mais, bien qu'ils reçoivent des dîmes, ils ont eux-mêmes payé des dîmes à Melchisédek dans la personne d'Abraham, leur père. De plus, non seulement Melchisédek reçoit des dîmes d'Abraham, mais il bénit celui qui avait les promesses. Celui de qui il avait été dit qu'il serait en bénédiction, et que dans sa semence toutes les nations de la terre seraient bénies, est lui-même béni. Et, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. En outre, dans le cas d'Aaron et de ses fils, des hommes mortels reçoivent des dîmes. Mais quant à Melchisédek, nous n'avons aucune allusion à sa mort. Pour ce que le récit en rapporte, il est rendu témoignage qu'il vit. Ainsi, dans la personne de leur père Abraham, les sacrificateurs, selon l'ordre aaronique, ont payé des dîmes au lieu d'en recevoir et ont reçu la bénédiction plutôt qu'ils ne l'ont donnée. De plus, comme hommes soumis à la mort, ils ont payé des dîmes à celui dont il est rendu témoignage qu'il vit. Il est ainsi clair que l'ordre de la sacrificature selon Melchisédek est beaucoup plus élevé que celui d'Aaron. Versets 11 à 17. Citation de l'Écriture. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi, quel besoin était-il encore qu'un autre sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédek et qui ne fût pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Car la sacrificature étant changée, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont personne n'a été attaché à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur a surgi de Juda, tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant des sacrificateurs. Et cela est encore bien plus évident si, à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur se lève, qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, verset 4. Fin de citation. Si donc la sacrificature de Melchisédek est supérieure à celle d'Aaron, c'est une preuve évidente de l'imperfection de celle-ci, transitoire dans son caractère et imparfaite dans son office. Plus loin dans l'épître, nous apprenons qu'elle ne donnait pas de soulagement permanent à la conscience et ne permettait pas à celui qui offrait de s'approcher de Dieu. Cette imperfection même prouvait la nécessité de la venue d'un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ce sacrificateur, nous l'avons en Christ, en qui seule est la perfection. Ce changement de l'ordre de la sacrificature rend nécessaire un changement de loi. Car il est évident que Christ appartenait à la tribu de Juda, dont aucun homme n'est appelé au service sacerdotal sous la loi de Moïse. Il est également clair que le Seigneur est appelé à être sacrificateur, bien qu'il se rattache à la tribu de Juda. Mais il l'est selon la ressemblance de Melchisédek, c'est-à-dire non selon un commandement charnel qui établissait des sacrificateurs soumis à la mort, d'où le recours à une succession de sacrificateurs. En contraste, la sacrificature de Christ a une place sans égale dans sa majesté incomparable, car elle est, selon la puissance d'une vie, impérissable. C'est comme ressuscité, dans la puissance d'une vie au-delà de la mort, que le Seigneur est appelé à être sacrificateur. Il l'est, par conséquent, non pas pour la durée d'une vie, mais pour l'éternité. Versets 18 à 28. Citation de l'Écriture. Car il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et en tant que cela n'a pas eu lieu sans serment, car ceux-là sont devenus sacrificateurs sans serment, mais celui-ci l'est devenu avec serment, par celui qui a dit de lui, « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est d'une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait le garant. Et ceux-là étaient plusieurs sacrificateurs, parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, a la sacrificature qui ne se transmet pas. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et élevé plus haut que les cieux, qui n'est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car cela, il l'a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même. Car la loi établit pour souverain sacrificateur des hommes qui sont dans l'infirmité, mais la parole du serment, qui est après la loi, établit un fils qui est consommé pour l'éternité. Fin de citation. Le commandement de Moïse quant à la sacrificature est par conséquent abrogé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Il était faible parce que le sacrificateur, étant sujet à la mort, ne pouvait pas demeurer. Il était inutile parce qu'il ne pouvait pas placer l'homme dans la présence de Dieu avec une conscience libérée de la crainte du jugement. La loi dirige le regard vers les choses meilleures, mais en elle-même, elle n'a rien amené à la perfection. Avec la sacrificature de Christ, il y a introduction d'une meilleure espérance. Elle a pour résultat d'amener le croyant à la gloire, bien que, sans attendre la gloire, nous puissions nous approcher de Dieu par notre souverain sacrificateur. Voir chapitre 10, versets 21 et 22. Nous sommes en outre assurés de la supériorité de la sacrificature de Christ sur celle d'Aaron, par le fait qu'en contraste avec Aaron, l'appel de Christ à la sacrificature est confirmé par un serment. Comme preuve, l'apôtre cite de nouveau le psaume 110. Le serment implique qu'il ne peut y avoir ni révocation, ni abrogation de la sacrificature de Christ, comme dans le cas de la sacrificature lévitique. Le serment rend d'autant plus sûres les bénédictions de la Nouvelle Alliance, qui repose sur Jésus et sur son œuvre. Sous la loi étaient établis sacrificateurs des hommes qui étaient incapables de demeurer dans leur office en raison de la mort. Un sacrificateur pouvait, dans sa mesure, apporter sympathie et secours à ceux pour lesquels il exerçait sa fonction. Mais la mort l'enlevait, et un autre sacrificateur le remplaçait, qui était étranger aux peines de ceux dont s'étaient approchés ses prédécesseurs. Avec Christ, quelle différence ! Ayant triomphé de la mort, il demeure éternellement dans l'exercice de la sacrificature qui ne se transmet pas. Toi, tu demeures. Et tu es le même. Chapitre 1, versets 11 et 12. Après avoir montré la supériorité de la sacrificature de Christ, l'apôtre résume les bénédictions qui, pour le croyant, résultent de cette sacrificature. Parce que nous avons un tel souverain sacrificateur qui vit éternellement et ne change jamais, nous avons l'assurance qu'il peut nous sauver jusqu'à l'achèvement de notre pèlerinage. Par lui, nous pouvons nous approcher de Dieu pendant le voyage. Il peut nous sauver de tout ennemi, nous amener à Dieu et intercéder pour nous dans toutes nos infirmités. Cette portion de l'Épître se termine en nous montrant qu'un tel souverain sacrificateur nous convenait. Au chapitre 2, verset 10, nous apprenons qu'un tel souverain sacrificateur convenait pour Dieu. Ici, nous apprenons qu'il nous convenait. Vu ce que Dieu est dans toute sa sainteté, nul autre que Christ ne conviendrait pour Dieu comme grand sacrificateur. Vu ce que nous sommes dans toute notre faiblesse, nul autre que Christ ne conviendrait pour nous. Il nous convient à cause de sa sainteté intrinsèque, à cause de la pureté de ses mobiles, il est innocent sans la moindre mauvaise pensée, parce qu'il a traversé la Seine d'ici-bas sans en être souillé, sans être sali par les corruptions du monde, parce qu'il a été élevé plus haut que les cieux, par-dessus tout, à cause de son œuvre accomplie une fois pour toutes pour les péchés, lorsqu'il s'est offert lui-même sur la croix. Ainsi, le Fils consommé pour être sacrificateur pour l'éternité par la parole du serment est présenté en contraste avec les hommes enveloppés d'infirmité qui étaient établis sacrificateurs par la loi. Résumons l'enseignement de ce chapitre. Nous avons devant nous la dignité de l'ordre de la sacrificature de Christ tel qu'il est typifié par Melchisédek, versets 1 à 3, la grandeur de la sacrificature de Christ telle qu'elle est mise en évidence par la supériorité de la sacrificature de Melchisédek sur la sacrificature lévitique, versets 4 à 10, l'imperfection de la sacrificature lévitique rendant nécessaire un changement de sacrificature, verset 11, le changement de sacrificature rendant nécessaire un changement de loi en relation avec la sacrificature terrestre, versets 12 à 19, la sacrificature de Christ confirmée par un serment, versets 20 à 22, la sacrificature de Christ qui demeure et ne change pas, versets 23 et 24, la parfaite compétence de Christ pour son office sacerdotal, verset 25, et la qualification personnelle de Christ pour son office sacerdotal, versets 26 à 28.